fois nu. Entretien d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Jean-Luc Godard s'entretient avec Noël Simsolo, 10e et dernier entretien.
Pour conclure cette série d'entretiens, Jean-Luc Godard, moi, il y a actuellement une tarte à la crème qui est peut-être, hélas, une vérité, c'est la mort du cinéma, on en parle beaucoup. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait un problème qui était qu'on ne peut pas en parler comme ça. Il y a aussi la mort des cinéastes. Les morts, il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit sans les morts qu'il y a eu, enfin, victimes ou morts naturelles. Et il y a aussi peut-être des cinéastes d'aujourd'hui qui filment et qui sont morts d'une autre manière. Alors, il est évident, on ne va pas faire la liste des gens qu'on a admirés et qui sont morts depuis longtemps ou qui sont morts récemment. Mais c'est quand même très curieux que, pour prendre un exemple complètement d'actualité, ça ne serait pas le bon mot, mais de ces jours derniers, John Cassavetes, qui aurait pu être un cinéaste américain dans le cinéma américain, vu qu'il est acteur américain et qui a fait autre chose de passionnant. Sergio Leone, qui a essayé de faire un cinéma comme les Américains et tout en étant italien, meurt à peu près à la même époque, à des âges différents. Très peu, il y a un an ou deux de différence entre eux. Et c'est au moment où on n'arrête pas de dire le cinéma est mort, le cinéma est en train de mourir. Et il y a eu d'autres morts. Alors ça, quand on pense histoire du cinéma, on compte un peu les... pas que les blessés, les morts, les victimes et tout, et on se demande, est-ce qu'il y a la relève? Ou est-ce que c'est une histoire close?
Non, mais je pense que c'est inhérent à partir du moment où il y a un moyen mécanique de reproduction de représentation de la vie, ou en tout cas que les gens acceptent comme tel, qu'à partir du moment où on voit sa photo, on dit c'est bon, c'est pas vraiment moi, mais c'est moi. À partir de ce moment-là, et du reste, je raconte qu'il aurait pu être inventé avec les moyens techniques de la couleur qui existaient, que bizarrement, l'inconscient culturel des gens a fait que on ait préféré le faire en noir et blanc alors que la couleur existait. Le son du reste existait aussi à peu près au même moment, pas parfait mais quasiment pareil, qu'on a préféré le faire en noir et blanc et ensuite muet. C'est comme s'il fallait donner que ce qu'on a appelé l'image photographique était en fait une sépulture de la vie et qu'on a accepté et qu'elle a toujours lié. Vous ne trouverez peu de films qui ne racontent pas une histoire de mort, en tout cas la mort de quelque chose, plutôt que de raconter la vie. Et qu'au moment où il a fallu non plus raconter la vie, mais filmer et raconter, lors de la Deuxième Guerre mondiale, raconter la mort de la vie qu'ont voulu un certain nombre de peuples, l'image photographique, si on peut dire, a éclaté sur la contradiction. Un mort dans la vie, dans la sépulture, ne peut pas filmer la vie qu'on veut faire mourir. Il y a eu quelque chose qui ne va pas, et ensuite, les cinéastes, enfin, connus, après, on ne peut plus... Moi, je n'oserais pas, ça me fait toujours rire, du reste, j'ose m'appeler un peu cinéaste du fait que je vis encore à la fin d'une époque où ça s'est appelé comme ça. Mais je n'oserais plus, comme les jeunes garçons qui disent qu'ils font du cinéma et qui mettent dans l'annuaire téléphonique cinéaste. Je me dirais raconteur d'images ou autre chose, ou je ne sais pas quoi, j'aime mieux dire producteur pour moi.
Mais la mort du cinéma, vous la montrez...
Qui fait mes films, mais qu'elle était impliquée dans... D'où la phrase des Lumières, c'est un art, s'ils l'ont vraiment dit, on peut penser que quelque chose s'est dit comme ça et qu'il aurait été attribué, qui est un art sans avenir parce qu'il était que le présent et que maintenant, aujourd'hui, où on va plutôt, sous prétexte d'avenir, on va plutôt vers le passé.
Attention, la phrase à peu près exacte qui aurait été dite... C'était au Café de Paris le jour d'après la projection, où un homme est venu vous racheter, qui était notre Méliès, d'ailleurs, on l'a su beaucoup plus tard. Il a dit, mais jeune homme, c'est une invention sans avenir commercial.
C'est une invention sans
avenir commercial, c'est ça qu'il aurait dit.
Ce qui était pas vrai. parfois, on ne sait pas.
Parce que quand vous montrez la mort du cinéma dans l'histoire du cinéma, ou alors j'ai mal interprété, c'est on jette un bébé par la fenêtre et c'est un enfant, à la fin de la manière zéro, qui se suicide.
Non, ça c'est là, enfin, juste à ce moment-là,
c'est dans autre chose, mais moi,
c'est
je
la mort
aussi.
Du cinéma, disons, européen, et européen c'est le triomphe par rapport... du cinéma américain.
D'accord, mais moi je vois aussi que finalement, il y a un peu aussi que le cinéma, c'est un peu... jeune, le cinéma.
C'était un peu, c'est un enfant mort-né.
C'est ça.
C'est un enfant
mort-né. C'est ça que j'ai senti, moi.
Contrairement à la peinture qui peut disparaître et qui, du fait qu'elle disparaît, mais que les gens la considèrent comme toujours vivante, dès qu'il y a un ancien peintre très connu, que les médias en ont fait un génie, eh bien, on va le...
Et des résurrections.
On va le voir, et qu'il y a un phénomène de résurrection qui n'a pas eu lieu pour le cinéma et qui, je pense, ne peut pas du tout avoir lieu de la même façon.
Mais au niveau le plus, j'allais dire, banal, ce n'est pas le mot, mais... Nous embarrassons pas avec les sens détournés des mots. Au niveau le plus banal, quand vous apprenez, et vous dédiez la deuxième partie à lui, la mort de John Cassavetes, quand vous apprenez que Robert Rocha est mort, donc de gens qui n'étaient pas vieux entre nous, et que leur cinéma était important parce qu'il continuait un mouvement, une mouvance, bon, d'abord, vous devez vous sentir un peu plus seul, bon, d'accord, mais en dehors de ça, vous devez vous dire que, est-ce que c'est logique ? Qu'il meurt parce que le cinéma meurt ? Est-ce que ça, ce n'est pas lié ?
Ah non, je ne me dis pas ça comme ça. Non, je crois que ça n'a pas... C'est des gens qui ont beaucoup lutté, qui ont été un peu exclus, qui ont accepté de s'exclure eux-mêmes. Puis à un moment, on a les forces physiques qu'on a. Et qui meurent. C'est un des rares arts où les gens se suicident très très peu, sauf les acteurs, mais qui viennent plus du théâtre, qui font moins partie du cinéma. Les cinéastes qui se sont suicidés sont extrêmement rares. Ils sont là pour comme excès, comme stage, comme l'exception qui justifie la règle. Ouais. Que dans le cinéma, c'est tellement proche de la vie, même si
les autres s'épuisent,
même si c'est cette vie fantôme, si c'est le fantôme de la vie. C'est trop proche de la vie pour qu'on se suicide. Un autre projet amène toujours... c'est quelque chose d'assez... qui peut être totalement nouveau, où la télévision cherche à la fois à faire mourir à petit feu, mais à entretenir quand même, car elle a besoin de ce noyau central de feu. Donc on entretient l'agonie, on change de mourant, si on peut dire, on change... On change d'agonisant, mais c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans le cinéma ou dans la création cinématographique, quelque chose qui fait que des gens, aussi bien comme Dreyer, aient pu aller jusqu'à la fin en faisant 6 films en 40 ans, enfin grosso modo, ou 10.
Ils en avaient fait beaucoup au mieux, et puis après...
Oui, mais...
Très peu.
Et que Raoul Walsh en ait fait 1500, ou 700, enfin, mais... Et que c'est deux choses, parce que le projet et la projection existent toujours après, et qu'il y a quelque chose dans ces mains qui vient de la projection, qui est le problème. Qu'il n'y a pas ce mouvement très épuisant et dur qu'il y a en littérature, où un grand roman prend 12-15 ans, et puis qu'il faut poursuivre après ce qu'on a commencé, comme une espèce de loi de la création absolument insupportable, qui fait que soit qu'on se suicide plus, soit qu'on devient... une notoriété, même avec talent couvert d'argent, ou les peintres, alors c'est encore plus... vu que c'est plus physique, près de la main, comme ça, deviennent fous. Il y a peu de littérateurs qui sont devenus fous. Oui. Alors, il n'y a aucun cinéaste qui n'est devenu fou, car on ne peut pas devenir fou en faisant un film, parce qu'on doit dire demain une chaise, une table, une femme, absolument. Ça, c'est impossible de devenir absolument. Fou. Et c'est un agrément, je pense. C'est quelque chose de...
Le cinéma, c'est la meilleure des intoxications qui soit même.
De formidable, d'une certaine façon.
Mais parce que je posais cette question...
Donc on peut dire que c'est une mort d'une certaine forme d'art qui a fait son cycle, qui vient à un moment écologique, du reste, où il y a un certain nombre d'espèces vivantes qui disparaissent, si je fais nouvelle vague. Par exemple, les coquelicots. Autrefois, les coquelicots... on les trouvait au milieu des champs de céréales. Aujourd'hui, comme il y a des insecticides et des trucs, on les trouve que sur les talus, et encore très très peu, un peu comme les derniers poètes.
Mais parce que
des choses comme ça.
Vous ouvrez le document avec Nicolas Rey, le Lys brisé.
C'est des époques. Oui, bien sûr.
Oui, et c'est ça. C'est, alors là, je n'aime pas le mot symbole, mais c'est emblématoire.
C'est complètement
le caractère de Denis Cret.
Symbolique, oui.
Et moi, je me dis la chose suivante. Là, c'est peut-être moi qui pense ça. J'ai peut-être tort. Je me dis que le problème de ce cinéma qui meurt, c'est qu'il n'y a plus les cinéastes.
Mais il y en a eu plus qu'on ne pensait, mais qu'on connaissait moins, et qui ont ça, la mort de, par exemple, Stiller,
oui.
Qui était une forme de lys brisé.
Aussi,
il y en a eu plus, Vigo.
Oui, mais quand Vigo mourait, il y avait encore Renoir qui était en pleine activité, il y avait Guitry, il y avait Walsh, il y avait Hawks. Aujourd'hui, je crois que ces derniers temps, peut-être ça s'active, mais Tarkovsky, un tas de gens
c'est
qui...
C'est peut-être en vieillissant qu'on dit ça, non, je crois.
Mais moi, je vois
non,
pas.
Non, c'est là une forme de l'art et ses représentants les plus connus, puisque ça s'est glorifié alors qu'avant... vraiment, le lecteur du Monde de 1930 ne connaissait pas le nom de Vigo. Aujourd'hui,
non,
le lecteur du temps, disons, de l'époque.
Putain, oui, non, c'est
vrai. Aujourd'hui,
c'est
vrai. Le lecteur du Monde connaît Bergman et Tarkovsky.
C'est
connaît
vrai,
même
mais...
Sergio Leone.
Oui, mais c'est vrai. Mais la, c'est la, le problème de la relève à laquelle je pense. Parce qu'il est évident que la télévision n'est pas capable d'assurer la relève. La télévision allemande a
mais
pu assurer une relève à la fin
pas.
Des années 60
non,
pour le cinéma allemand.
Mais non, ça c'est des boniments, ça s'est fait comme ça. Il y a des gens de plus ou moins de talent, comme on a vu ce que la télévision canadienne a fait au
oui, mais ils ont pu commencer comme ça.
Aux cinéastes canadiens, oui, ils ont pu finir surtout comme ça.
Ils non, sont... non, Wenders, non. Fassbinder, Herzog,
mais, des... mais non, mais ce qu'il faut voir, Fassbinder est mort. Il est mort sous la tâche, c'est le seul. Wenders est couvert d'honneur parce qu'il est plus malin et plus faible,
oui.
Et qui était brumeux, mais Fassbinder, qui était fort et courageux, ben il est mort. C'est le seul qui s'est coltiné les films de deux Allemagnes, qui n'ait jamais voulu faire autre chose, qui n'a pas fait très bons films, mais qui a fait du cinéma allemand, qui a essayé de faire du cinéma allemand.
Sauf le cinéma allemand, lui, tout
et
seul.
Que, bon, voilà.
Non, parce que... moi, je pense que la chance que le cinéma a eue jusqu'il y a quelques années, c'était qu'il y avait toujours, quand je dis une relève, disons une jeune génération.
Mais c'était une illusion.
Qui était là.
C'était une
mais
illusion non. Qui venait du propre pouvoir médiatique qu'on secrétait. Truffaut en est mort aussi. Ils sont tous morts, il est mort de la même façon que Fassbinder. Je ne voudrais pas dire moins courageuse et comme ça, mais d'un effort qui lui était disproportionné,
oui, oui.
Qui était de réconcilier l'art et le commerce et de faire honorer la nouvelle vague, si je puis dire.
Oui, oui.
Et ben, il en est mort, il a son cerveau a craqué. Il a eu une embolie ou je ne sais pas quoi, son cerveau a simplement craqué. Oui. Moi encore, je peux m'en sortir. J'ai été tellement marginal et tellement douloureux que j'ai été d'une certaine manière moins. Un peu
plus
moins
protégé,
physiquement, plus protégé, oui, et par mon enfance merveilleuse, et par cette force qu'a eu la Nouvelle Vague, et ensuite par la marginalité, mais naturelle que j'ai eue, qui m'a, je pense, un peu protégé, parce qu'il n'y a aucune raison, je me dis, que je sois vivant, alors que Fassbinder et François sont
morts. D'un autre côté, Chabrol aussi est protégé, d'une autre manière.
Chabrol était protégé depuis le début, lui, alors là, il n'y a pas aucun risque, Chabrol.
Oui, il est protégé d'une autre manière.
Marcel Achard aussi était protégé, ça.
Oui.
Non, Chabrol, c'est autre chose. C'est...
Oui, mais
c'est, non, pas... c'est même pas du vivier.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que... est-ce que par le cinéma...
C'est un bon zig, mais c'est même pas... C'est pas moqui non plus.
Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va se passer quand même dans le cinéma? Parce que j'ai l'impression que maintenant, il y a cette lucarne qui est là.
J'en sais rien, ceux qui veulent faire des films en font, ceux qui ne veulent pas en faire, ce qu'il y a les trois quarts des gens qui font des films ne veulent pas en faire et en font quand même.
Voilà, c'est ça.
C'est l'autre
mort.
Vous regardez une photo qui a, comme il y a souvent dans les bouquins, je dirais, c'est la littérature. De mon temps, c'était extrêmement difficile de trouver un livre de cinéma. Je me souviens, je n'ai jamais pu trouver, alors je l'aurais vraiment dévoré, le fameux film Sense et film Forme. Et puis maintenant que je les ai là, je ne les lis jamais. Mais qui lit ce... enfin, je ne sais pas, ça fait partie de...
Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accès... On a l'impression que le fait que tout l'accès est possible et qu'il y a sans arrêt des côtés assistés...
Ah oui, je voulais dire, si on trouvait, mais à la radio, ça ne peut pas se montrer. Si on était à la télévision, on aurait préparé des images de tournage des films d'Hollywood.
On peut en décrire...
Mais il y a la caméra, il y a les techniciens autour, et il y a ce que filme la caméra. Si c'est une assiette, si c'est une assiette, si c'est le visage de Betty Davis, c'est le visage de Betty Davis ou Jimmy Stewart. Et bien sûr, toutes ces photos, j'en ai une là, c'est Fritz Lang en train de diriger Sylvia Sidney. Et bien, tout le monde regarde ce que regarde la caméra. Et on sait ce que filme la caméra, alors que c'est une photo large, prise de côté.
Absolument.
On sait ce que filme la caméra, alors qu'a priori, on ne sait pas l'objectif qu'elle a. Mais on le sait parce qu'on voit le regard de au moins 5 ou 6 personnes qui se forment sur un point. Aujourd'hui, vous regardez une photo de tournage d'un film, vous voyez un qui se gratte le nez, l'autre qui se gratte le cul, l'autre qui téléphone, l'autre qui ça. Personne ne regarde rien. Donc les gens font les films qu'ils veulent. C'est peut-être ça aussi que veut le public, mais qui ne juge plus digne de lui de se déplacer en salle pour voir ça, ce qui me semble absolument normal. Si le prêtre fait l'idée, dit quand même trop de conneries, on va pas aller à l'église, on va l'écouter sur sa vidéo.
Vous aviez été attaqué, je parle pas de la tarte à la crème, on vous a jeté au visage, à la conférence de presse de détective par quelqu'un qui a dit comment ça se fait que vous avez osé dédier ce film, heureusement, à Cadabette, à un tel, mais à Clint Eastwood, comme si vous aviez commis
Mais il adorait Clint Eastwood, tout le monde l'adore.
Oui, moi aussi j'adore Clint Eastwood.
Clint Eastwood est un des derniers qu'on... Je dirais que les cahiers auraient pu... dont on disait du bien, comme Butticher...
Aurait pu défendre avant, disons.
Comme Edgar Ulmer, comme Butticher aurait pu défendre avant. Il y a 3 ou 4 films de Clint Eastwood, je trouve magnifiques. Et puis moi j'aime bien les indépendants et qu'il a fait ses films un peu lui-même à des moments créés. J'aime particulièrement ceux où il joue avec sa...
Sandra Locke.
Sa fille et sa compagne, où il y a deux. Où il y a une petite fille aussi.
Soldat d'impact.
Je sais pas. Qui n'a pas été fait par lui, en tout cas, la signature du film.
Ah non, non, c'est L'accord de Red.
L'accord de Red.
Très, très beau film.
Qui sont des films absolument
en magnifiques. En Quittant Man aussi, c'est très beau.
Oui,
aussi. En Quittant Man. C'est la vie de Hank Williams, en fait,
oui,
d'ailleurs.
C'est ça. Mais enfin, c'est ça, qui sont des films auxquels. Cimino n'a jamais réussi à faire le quart de la moitié.
Ah ben oui, ça, je suis heureux de l'entendre dire. Je suis heureux de l'entendre dire, parce que peut-être le problème aussi qu'on a aujourd'hui, c'est que le cinéma américain que nous avons tant aimé, et c'est vrai que même sur une cassette, quand on voit un vieux douane, c'est pas désagréable.
Non, mais l'autre jour, j'en ai vu un petit. Ben, j'ai regardé les critiques qui avaient été faites. Il a été soit éreinté, soit passé sous silence.
Lequel?
Moi, j'ai trouvé merveilleux. C'est un film, parce qu'on voit peu de films ici, et en plus, on n'y va pas souvent, parce que chaque fois qu'il faut faire 30 km pour aller les voir, il faut en faire 30 pour revenir après. Alors... C'est un film qui s'appelle Patty Rocks, d'un nommé Burton, dont j'ai appris qu'il avait fait un film il y a 12 ans et qu'il venait d'en faire un. Je ne sais pas du tout qui c'est. J'ai regardé dans les cahiers ce qu'ils en disaient. On voyait surtout qu'ils ne savaient pas quoi en dire.
Oui, mais ça, on va parler du problème de la critique, si vous voulez.
Et c'était un film du temps de. Pour moi, bien supérieur, avec un acteur qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau avec Mickey O'Rourke, sauf que ce n'était pas Mickey O'Rourke et qu'il était 20 fois mieux. Et qui n'était rien, et c'était ce rien qui était du cinéma. Et il ne savait pas quoi le dire. Ce n'était pas un rien imposant comme était devenu Ophuls à la fin.
Oui, je comprends.
Mais qui ne savait vraiment pas quoi en dire. Comme, comme peut-être les premiers films de Forman, mais beaucoup moins. C'était rien, c'était une virée, mais pas une dérive.
Voilà,
enfin, c'était.
Voilà.
C'était 100 fois.
Pas une dérive, ça.
C'était 100 fois. Puis c'est tout, puis ça s'arrêtait quand ça devait s'arrêter. Et c'était une gentille merveille.
Ouais, il y avait une autre surprise.
Comme certains films à des moments, Kaltman avait fait, je m'en souviens pas, alors qu'il y en a qui l'a fait très mauvais, mais un film qui s'appelait, qui bien sûr n'a eu aucun succès, qui s'appelait The Perfect Couple.
Oui, c'était pas mal.
Ah, pour moi, c'était une pure merveille. C'est un film qu'on voit un jour et puis on se dit, ah là, ça existe.
Il y avait aussi,
ça existe
vous avez encore. Vu Blood Simple de Joe Cohen? Qui est nettement mieux qu'Arizona Junior, qui était un petit film série B, où exactement...
Bon, mais si, ça existe, vous voyez ce film anglais qui a eu... Alors ça, je ne comprends pas comment il a eu beaucoup de succès. Pour moi, c'est une merveille pour lui qu'il a eu du succès, car c'est très très rare, je trouve, ces films. C'est le film qui s'appelait Distant Voices.
Ah, c'est magnifique.
Ah oui, mais d'habitude, ces films-là sont des films enfin, qu'on disait maudits autrefois, et celui-là a été accepté.
C'est un film que Pierre-Henri Delos, pour l'action réalisateur, a eu parce que personne n'en voulait.
Heureusement.
Et lui, il l'a trouvé magnifique, il l'a pris.
Eh bien, formidable. Il y en a moins, mais il y en a. Il y a sûrement. Puis il y en a des tas que je ne vois pas, je ne sais pas quoi. Ça n'est plus un mouvement
Oui, c'est ça.
Tant que le moyen mécanique existe ou électronique, ça existe, eh bien, ça se fait.
Mais où vous avez raison, c'est que les derniers biens, c'est les
années. S'il y a un nouveau Beckett, il ne va pas dire j'écris plus parce que la littérature est finie, bien qu'on ait dit depuis longtemps que la littérature est finie.
Oui, mais évidemment, c'est vrai que c'est les indépendants qui sont encore ceux qui.
Ça a toujours été les indépendants. Quand Griffith a fait naissance d'une nation.
Il y a Eastwood, mais il y a Woody Allen aussi qui est un indépendant.
Il est plus racoleur. Il fait pas non plus. À des moments, il y a des exigences et il fait pas ce qui.
Vous avez travaillé ensemble pourtant.
Trois minutes.
Ah bon.
Trois minutes.
Non, parce qu'il disait toujours qu'il ne accepterait de travailler qu'avec.
Il l'a fait.
Bergman, Fellini ou vous alors.
Il l'a fait. Il l'a fait une fois. On avait un contrat pour travailler de 2 à 7 et puis à 5 heures, il m'a dit j'aimerais bien partir maintenant. Puis je lui ai dit, ah bon, mais on avait jusqu'à 7 heures. Il m'a dit, oui, mais j'aimerais bien partir maintenant. Et alors je lui ai dit, ah bon, mais je peux peut-être arranger le scénario pour supprimer ce que j'avais prévu. Il m'a dit, oh yes, it would be very nice of you.
C'est une histoire de Woody Allen que vous nous racontez, Godard, c'est formidable. c'est bien.
Il m'a dit, yes, it would be very nice if you could do that. Et j'ai dit, yes, I can do that. Goodbye.
C'était pour Le Roi Lear, c'est ça? Pour conclure, peut-être, si vous êtes d'accord, on pourrait parler un peu de ce projet avec Delon, au moins, avant que ça vous embête. Parce que
c'est un projet.
C'est l'histoire d'aujourd'hui, c'est pour ça.
Non, c'est une histoire d'hier, c'est un scénario que je devais faire à l'époque avec Anna Karina et Belmondo. Et Madame Baudard, la productrice, voulait Catherine Deneuve, et moi je ne voulais pas Catherine Deneuve, et le film, elle ne voulait pas Anna Karina, puis le film ne s'est pas fait. Puis je vois, il est ressorti comme ça un jour. J'y ai repensé.
C'est excitant l'idée de travailler avec un acteur avec qui on n'a jamais travaillé et qui a fait les choses.
C'est un film marginal, c'est comme avec Bardot quand elle a fait Le Mépris. C'est un acteur en fin de carrière qui espère, qui se dit j'ai plus rien à perdre, là ça peut. En tout cas, on parlera de moi. Où je ferai parler de moi à cette occasion, et puis voilà. Et puis il y a un deal très professionnel qui est.
Ah, puis là, puis il n'est pas mauvais.
Et puis. Moi, je l'ai bien aimé dans un certain nombre de films. Un des derniers, c'était Notre Histoire, qui n'a eu également aucun succès, qui est le seul film correct qui a fait Bertrand Blier, avec Hitler, je ne connais pas ses débuts.
Et oui, un de ses premiers films. Il avait débuté Zouzou, qui fut célèbre sous Romer par la suite, et Garel. Alors justement, pour conclure, moi, il y a un nom, je voudrais parler. Il y a un cinéaste qui ne fait pas du tout le cinéma que vous faites. Mais je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est un des cinéastes qui est un peu dans une position identique à la vôtre, au niveau du média, des choses et tout, et qu'on avait appelé le Rimbaud du cinéma à une époque, quand il avait 18 ans, c'est Garel, c'est Philippe Garel.
Oui, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour Garel. Je prends ses nouvelles quand j'ai l'occasion d'en avoir, soit sa vie personnelle ou ses trucs, et puis voilà, oui.
Parce que je trouve que même quand il se trompe, c'est toujours intéressant. Il fait partie de ces cinéastes que même quand il se trompe, le film est quand même intéressant. Ce qui n'est pas le cas de tous les cinéastes.
Oui, moi je dirais c'est. Enfin, les trois quarts des cinéastes que j'aime aujourd'hui. Avant, j'avais besoin de voir leurs films. Maintenant, j'ai plus besoin de les voir. Alors, je me console avec les anciens qui sont sur cassette. Et je sais que pour voir un film de Garel, je peux me passer une cassette de Hawke si je veux et que ça revient au même.
Ah, c'est un compliment pour lui. Il nous reste quelques minutes, Jean-Luc Godard. Est-ce que. Pour revenir peut-être à... Combien de temps prendra pour finir ces histoires du cinéma, si tout se passe bien?
Si tout se passe bien, 10-12 ans, ce qui pense que je terminerai jamais, mais j'espère en faire 2 ou 3 autres, en tout cas 2 autres dans les 2 ans qui vont suivre à cause d'un accord avec la 7 qui a bien voulu s'en charger, et FR3... l'excellent trio Cazenave, Boutan, Jégu, que je remercie beaucoup. Et puis voilà, après, peut-être une autre, simplement pour qu'on voit que ça ne peut. C'est pas une émission, mais disons que c'est un ensemble, et qu'il y a un point de vue d'ensemble pour arriver à quand même à dire le minimum. C'est que.
Est-ce qu'il y aura des.
La dernière qui s'appelle Les signes parmi nous, que je. si je sens que je ne vais pas finir, que je ferai, qui est l'histoire de... J'ai souvent raconté, qui est un roman de Ramu, où il y a un colporteur, il y a une nuit d'orage, et puis tout le monde croit là que c'est la fin du monde, et le colporteur envenime cela, et puis le beau temps revient, et puis les gens chassent le cinéma. Ben, pour moi, le cinéma a toujours été ce colporteur.
Et est-ce qu'il y aura des comme en 12 ans...
Essayer de présenter ce côté, de montrer surtout, à l'aide de choses aussi bien, d'un film de cirque d'Eisenstein, de Bœtischer, de Delannoy éventuellement, de montrer que c'est quelqu'un qui n'a pas rempli, ou quelque chose qui n'a pas rempli, mais comme toutes les révolutions, et ça c'était une révolution culturelle, c'était je crois la seule révolution culturelle qui ait eu le cinéma, qui n'a pas plus que la chinoise, qui est loin d'aboutir. Je me souviens d'un accord qu'on avait eu avec Marceline Loridan et Joris Ivens, où on les avait aidés un peu pour leur premier film sur la Chine, et le contrat, vous le verrez, il est là, il y a marqué que vous nous rembourserez lorsque la révolution culturelle sera non seulement achevée, mais réussie. Et que le cinéma a été ce début de révolution culturelle puissante, puisqu'elle s'appuyait sur des moyens mécanico-électriques. Et bon, comme Mao a dit, il y aura beaucoup de révolutions culturelles en Chine. Moi, je dis, il y aura aussi beaucoup de révolutions culturelles. C'était le premier vrai début de révolution culturelle, la deuxième, disons la première, et je voudrais rendre ça sensible et pas juste comme une plaisanterie de Jean-Luc Godard, si vous voulez. La première, ça a été Sumer. Et c'est une histoire occidentale, l'Orient, et alors est loin d'avoir même les... On ne sait pas ce que c'est que l'Orient et l'histoire de comme ça, mais ça c'est l'histoire d'Occident qui a commencé à... visiblement à Sumer par l'écriture, et qui s'est continué trois ou quatre siècles plus tard, millénaires plus tard, ou six ou sept millénaires plus tard, ou douze ou treize, alors ça je ne sais pas, par quelque chose qui à un moment a eu une explosion de type culturel qui a été le cinéma. Ensuite, il y a des retombées pour l'instant.
Et la pire, c'est la télévision. Et la pire retombée, c'est la télévision.
Une des mauvaises retombées, c'est la télévision.
Et Résurrection ?
Et le courrier, enfin les postes, enfin les télécommunications, les ordinateurs.
Vous croyez une
résurrection ? Les ordinateurs. J'y crois, oui. C'est pas être religieux, mais si j'en fais, c'est une résurrection déjà.
À voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Jean-Luc Godard s'entretenait avec Noël Simsolo. Réalisation, Marie-André Arminot. La semaine prochaine, Pierre Vidal-Naquet répondra aux questions de Gérard Gromaire.